Les cours du Collège de France, culture écrite de l'Antiquité tardive et papyrologie byzantine. Jean-Luc Fournet.
Bonjour à toutes et à tous. La semaine dernière, nous avons abordé la partie consacrée aux listes thématiques de mots, de ce singulier manuel d'école copte que nous sommes en train de feuilleter. Et après la liste des noms de pierres précieuses, qui, vous vous souvenez, est tirée de l'Exode, eh bien, nous avions à peine commencé à regarder la section suivante intitulée « Vertus, les vertus de l'Esprit Saint », qui, a priori, semble venir d'un passage de l'Épître aux Galates consacré justement aux fruits de l'Esprit Saint. Voici le passage, mais le fruit de l'esprit, c'est la charité, la joie, la paix, la longanimité, la gentillesse, la bonté, la fidélité, la bénignité, la continence. Mais les fruits de l'Esprit Saint ne sont ici qu'au nombre de 9 et seuls 7 correspondent à ceux de notre liste, et je les ai mis en rouge. Alors, il est vrai que cette liste est sujette, ou a été sujette à des ajouts et des remplacements qui ont abouti à de nombreuses variantes, d'autant plus excusables que certains des mots qui dénotent ces vertus sont proches par le sens et que le passage d'une langue à l'autre n'a pu qu'engendrer des fluctuations. Qu'il suffise de regarder les apparats critiques que je vous ai mis à l'écran, de l'édition du texte copte par Horner, ainsi que l'apparat critique du texte de la Vulgate de Jérôme de White. Vous voyez qu'il y a énormément de variantes qui sont signalées dans les apparats critiques. C'est ainsi que dans une homélie de l'évêque d'Alexandrie Théophile, sur la repentance et la tempérance, conservée par un manuscrit de Londres en version copte, eh bien la liste des fruits de l'Esprit Saint, donnée de façon abrégée, contient la pureté, petebo, absente du texte de l'Épître aux Galates, mais mentionnée dans le codex scolaire Kotzen. Je vous ai mis, là encore, la référence, et en rouge, ce qui se retrouve dans notre codex. Donc, le fruit de l'esprit est la charité, la joie, la paix, la longanimité, la pureté, et les autres qualités qui viennent après celle-ci. Donc, les fruits de l'Esprit Saint sont à nouveau cités en copte dans la vie de Pacôme, le fondateur du cénobitisme. Là encore, les vertus varient, mais qui plus est, entre la version en copte saïdique et en copte boïrique du même texte, eh bien, leur nombre change sensiblement. Alors, la version saïdique, je vous rappelle que le saïdique, c'est le dialecte du sud, le dialecte copte du sud. Eh bien, on a le texte suivant, la justice, la paix, l'humilité de cœur, la longanimité, la gentillesse, la bénignité, la continence, la joie dans l'espérance. Et vous voyez que la joie et espérance ont été fusionnées dans une seule et même expression, la joie dans l'espérance, la charité. Tandis que dans la version boïrique, le dialecte du nord, eh bien, nous avons le texte suivant, les fruits de l'Esprit Saint, la foi. Alors, la foi qui est exprimée cette fois-ci en boérique, non pas par le mot grec pistis, mais par le mot copte narti, pinarti, qui équivaut exactement à pistis. Donc, la foi, la bonté, la crainte, la miséricorde, la pureté, l'humilité, la justice, la longanimité, là, dans le texte boérique, on a un autre mot que celui que nous avions en saïdique, ti metrephou, mais qui est aussi un équivalent copte de la longanimité, qui se dit en grec macrothumia, le fait d'être grand, long, de cœur, mot à mot, la gentillesse, la bénignité, la continence, la joie, l'espérance et la charité parfaite. Alors, voyez que la première version, celle en saïdique, nous donne 10 vertus, dont 8 correspondent à la liste du papyrus, enfin du manuscrit Kosten. La seconde, 14, dont 9 se retrouvent dans le manuscrit Kosten, parfois donc sous des synonymes, comme on l'a vu avec notamment la foi. Dans la version arabe de la vie de Pacôme, que je vous épargne, eh bien, ce sont 10 vertus qui sont citées. Donc vous voyez que selon les versions, on peut avoir des modifications dans la liste de ces vertus. Donc cette liste a fluctué à la faveur de traductions, de citations plus ou moins textuelles. Alors, est-ce une raison suffisante pour renoncer à chercher des parallèles plus proches de notre manuel scolaire et d'en conclure qu'on a affaire à une liste dérivée de l'épître aux Galates, modifiée selon l'humeur, on va dire, du rédacteur de notre manuel scolaire. Ben, ce serait dommage. Il y a deux indices qui peuvent nous mettre sur la piste d'un modèle plus proche de notre liste. Le nombre des vertus est de 12, et elles ne sont pas appelées « fruits de l'Esprit-Saint », comme dans l'Épître aux Galates, mais « vertus de l'Esprit-Saint », avec le mot grec qui est utilisé « arrêté ».« Vertus de l'Esprit-Saint ». Ces deux éléments ont leur importance. Il se trouve que les vertus de l'Esprit-Saint sont citées dans des textes coptes contemporains de notre codex, comme dans cet éloge de la Vierge conservé par un manuscrit de Berlin. Alors, je vous donne la traduction. La Vierge Marie a revêtu les 12 vertus de l'Esprit-Saint. Ce sont la foi, l'espérance, la charité, le jeûne, la sagesse, la continence, la bénignité, la chasteté, la longanimité, l'humilité, la pureté, l'endurance. Et on retrouve dans cette liste 10 de nos 12 vertus. Mais on les rencontre surtout, ces vertus, dans des invocations épigraphiques provenant précisément des monastères d'Apa Jérémie à Saqqara et d'Apa Apollo à Bawit. Et cela constitue un parallèle qui, pour nous, évidemment, est beaucoup plus intéressant, étant donné que ce codex scolaire, je vous l'ai dit, a de fortes probabilités de venir d'un de ces deux monastères. Alors, nous avons vu que le colophon de notre codex était très proche des litanies qui commençaient, les inscriptions commémoratives et funéraires qui sont retrouvées en très grand nombre, soit sous la forme d'épitaphes gravées, soit sous la forme d'inscriptions peintes sur les murs, dans ces deux monastères. Or, une autre caractéristique rapproche ces litanies de notre codex. Entre autres entités divines ou saintes invoquées, eh bien, on trouve les vertus de l'Esprit-Saint, autrement dit le titre même de notre section. Et sur ce sujet-là, je vous renvoie à un article de René-Georges Coquin, « Les vertus arétailles de l'esprit en Égypte », qu'il a publié en 1974 dans « Les mélanges d'histoire des religions offerts à Henri-Charles Puech ». Alors, en voici quelques exemples de ces inscriptions qui citent les vertus de l'Esprit-Saint. Je les ai pris dans chacun des deux monastères. Alors, le premier exemple que je peux vous montrer, eh bien, c'est une stèle qui commence ainsi, « Le Père, le Fils et l'Esprit-Saint, nos pères Michel et Gabriel, donc les archanges, les 24 vieillards, vous vous souvenez qu'il s'agit des 24 vieillards de l'Apocalypse, les vertus de l'Esprit-Saint, notre père Adam, notre mère Marie, notre mère Zoé. Je vous rappelle encore, j'avais eu l'occasion de vous le dire, que dans ces inscriptions, on ne parle jamais d'Ève, mais on remplace le nom d'Ève par celui de Zoé. Alors, vous constaterez que, en fait, si vous regardez la traduction qui a été donnée de cet épitaphe par le premier éditeur, Hall, eh bien, il y a une différence. Il n'a pas compris le texte de la même façon. Il a traduit le passage qui nous intéresse par les 24 prêtre vertueux de l'Esprit Saint. Il n'a pas vu que c'était les 24 vieillards, puisque en grec, presbytéros veut dire à la fois prêtre et vieillard, les 24 vieillards et les vertus de l'Esprit Saint. Alors, le problème, c'est que cette épitaphe, il est probable qu'elle vienne de Bahouid, mais on n'en est pas complètement sûr. Alors, je vais vous donner des exemples qui, eux, viennent assurément de Bahouid. L'exemple suivant vient de Bahouid, puisqu'il a été découvert in situ. Il s'agit, là encore, d'une inscription funéraire, ou plus exactement d'un dipinto, puisqu'il est peint sur le mur commémoratif. Donc, vous voyez, il a été publié par Jean Cléda en 1904, et il commence par le Père, le Fils et l'Esprit Saint, notre Père Michel, notre Mère Marie, les 24 vieillards, les vertus de l'Esprit Saint. Et alors, si vous regardez le texte de l'édition, vous verrez qu'il n'est pas correct. En fait, il faut lire ce que je vous ai mis dessous, c'est-à-dire les vertus, en aretou, alors probablement peut-être mal orthographié, avec une désinence de pluriel. Empnema et Touab, et je vous montre la photo pour que vous puissiez contrôler ma lecture. On a cette évocation des vertus de l'Esprit Saint dans des inscriptions funéraires qui viennent de l'autre monastère, celui d'Apa Jérémie à Saqqara, publié donc dans le volume de Quibel en 1912, celle-ci que vous avez à l'écran, le Père, le Fils et l'Esprit Saint, Michel, Gabriel, Sainte Marie, les 24 vieillards, les vertus de l'Esprit, notre Père Adam, notre Mère Zoé, etc. Ou bien cette stèle commémorative, le Père, le Fils et l'Esprit Saint, Apa Jérémie, Apa Enoch. Là, vous voyez, il y a une petite variante. Saint-Michel, Saint-Gabriel, notre Père Adam, notre Mère Zoé, notre Mère Ama Sibylle. Alors, vous pouvez être étonné peut-être de voir cette Mère Sibylle qui apparaît au milieu de ces invocations. Eh bien, il s'agit bien de la Sibylle. La Sibylle, récupérée par les chrétiens, considéré comme l'auteur des oracles sibyllins, elle serait, selon certaines traditions, la sœur du patriarche Enoch, lui-même auteur de livres apocryphes dans lesquels Enoch raconte les révélations qu'il a reçues. Et Enoch, qui est attesté par plusieurs fois dans les inscriptions d'Apa Jérémie et d'Apa Apollo, comme le scribe de justice, est justement invoqué quelques lignes avant dans notre inscription. Donc, vous voyez, il y a un rapport très net entre Enoch et la Sibylle qui peut nous paraître aujourd'hui assez étrange. Ils sont en fait des espèces de figures de prophètes par excellence. Encore une inscription du même monastère, un dipinto commémoratif à l'encre noire qui courait le long des murs et se lisait encore, puisque les autres murs étaient abîmés, se lisait encore sur le mur est, où il est question des vertus de l'Esprit Saint, les 24 vieillards, etc. On trouve aussi hein, cette invocation des vertus de l'Esprit Saint dans les monastères d'Apa Toma, à Wadi Sarga. Alors, je vous ai mis sur la carte où se trouve ce monastère, on est en Moyenne-Égypte, ainsi que dans le monastère d'Apa Moïse à Abydos, on est encore plus au sud, et dans plus au sud encore, dans un ermitage d'Esna. Et ce n'est d'ailleurs pas une coïncidence si le monastère de Wadi Sarga ou celui de Moïse à Abydos entretiennent aussi des affinités avec Apa Jérémie et Apa Apollo. D'ailleurs, René-Georges Coquin parle au sujet de ces établissements monastiques de monastère de l'obédience de Saint Apollo. Alors, ce dernier monastère, le monastère d'Apa Apollo, de Bahouid, eh bien, a livré une inscription peinte que j'ai gardée pour la fin. Non seulement parce qu'elle était inédite jusqu'en 1999, date à laquelle ont été publiés les carnets de fouilles de Jean Clédin, hein, presque un siècle et demi après les fouilles, mais surtout parce qu'elle apporte des informations supplémentaires par rapport aux autres. Il s'agit là encore d'une invocation malheureusement assez abîmée, mais ce qu'il en reste est suffisamment intéressant pour mon propos. Comme vous le voyez, les vertus sont invoquées et leur nombre, justement, et c'est ça qui est intéressant, est expressément mentionné. Hein, on parle des 12 vertus de l'Esprit-Saint. Alors, par ailleurs, ces vertus de l'Esprit-Saint sont invoquées après les séraphins, les 24 vieillards de l'Apocalypse et les archanges, qui ne se limitent pas ici aux deux archanges que l'on retrouve partout ailleurs, c'est-à-dire Gabriel et Michel, Gabriel et Raphaël, et probablement Michel, qui doit être sûrement en lacune, mais comprennent aussi un certain Sarafouel. Sarafouel, qui n'est jamais cité dans la Bible, mais qui est issu de pseudépigraphes juifs et qui est souvent mentionné dans des papyrus magiques ou dans des apocryphes bibliques. Et je vous montre justement un texte magique copte hein, où vous pouvez voir dans la liste des archanges Sarafouel qui apparaît, hein, « Vrai Dieu, écoute-moi aujourd'hui, moi, un tel fils d'une telle, et envoie-moi les 7 archanges qui existaient avec toi, Michel, Gabriel, Souriel, Raphaël, Raguel, Assouel, Sarafouel, afin qu'il soit avec moi à cette heure, moi, un tel fils d'une telle, jusqu'à ce que je termine mon invocation. » Et alors après, il met en scène les archanges, hein, que Michel soit à ma droite, Gabriel à ma gauche, Souriel sonne la trompette devant moi, etc., etc., que Sarafouel me donne l'honneur, la gloire et la grâce à mon visage, moi, Sévère, fils de Johanna. À l'instar des archanges et des séraphins, pour revenir au dipinto de Bawit, eh bien les vertus constituent une hiérarchie céleste, ce qui nous éloigne en fait de la conception que véhicule le texte de saint Paul, le texte de départ, hein, l'épître aux Galates, où les vertus sont présentées comme le fruit de l'Esprit-Saint. Ici, elles sont des personnalités célestes à part entière qui forment un ordre angélique. C'est ce que l'on retrouve dans un écrit apocryphe qui est datable dont la rédaction est datable du 5e, 6e siècle, qu'on appelle improprement l'Évangile de Barthélemy et qui vaudrait mieux appeler le livre de la résurrection de Jésus, où l'apôtre décrit une vision de la cour céleste qui est étonnamment proche des litanies ou de l'inscription qu'on vient de voir de Bawit. Je vous ai mis le texte copte à gauche. Alors, voici la traduction. « Je vis aussi le Seigneur assis à la droite de son Père, des milliers d'archanges, de chérubins, de séraphins. » On retrouve le séraphin de notre inscription. De puissance, hein, et là c'est le terme grec dynamis qui est utilisé, d'autorité, exousiae, les 12 vertus de l'Esprit-Saint, les 24 vieillards, les 7 éons. Alors là c'est une nouveauté, hein, les éons sont des espèces de puissances éternelles, hein, aion, c'est l'éternité en grec, hein, qui émane de l'être divin, l'être suprême, et qui était particulièrement en vogue chez les gnostiques. Les patriarches, les prophètes et tous les justes vinrent ensemble et se prosternèrent devant le Fils de Dieu en disant « Saint, Saint, Saint est le Roi, le Fils de Dieu ». Alors, que cet apocryphe reflète la piété, la liturgie ordinaire des chrétiens de l'Ancope dans l'Égypte du 5e et 6e siècle, comme l'écrivent Daniel Kessely et Pierre Chirix dans l'introduction qu'ils font à leur traduction de ce texte, eh bien, est confirmé par les rapprochements que l'on vient de faire avec des litanies, hein, de moines que l'on a retrouvées à Bawit et à Saqqara. On notera d'ailleurs que Sarafouel, le Sarafouel de notre inscription, apparaît plusieurs fois, hein, dans le livre de la résurrection de Jésus, hein, le pseudo-évangile de Barthélemy, sous la forme de Salafouel, ou sous la forme de Sarou Fouel, hein, ce qui montre que ce texte apocryphe devait être pratiqué hein, par les communautés monastiques de Bawit. En tout cas, le statut qu'acquièrent les vertus se trouve être confirmé par plusieurs peintures retrouvées, là encore, au monastère d'Apa Jérémie et d'Apa Apollo. Car si on ne s'attend guère à ce que les fruits de l'Esprit-Saint, dans leur abstraction incolore, dirais-je, soient figurés, eh bien, il en va tout autrement de vertus incarnées sous la forme d'entités angéliques. Les programmes iconographiques de ces deux monastères répondent parfaitement aux textes qu'on y a retrouvés hein, inscrits. Ils ont en effet livré plusieurs représentations figurées des vertus sous la forme de femmes ou d'anges. Alors, le fait que ces représentations n'apparaissent pas ailleurs montre une fois de plus que la cohorte angélique des vertus est une tradition spécifique à ces deux monastères, une de plus. Alors, le monastère d'Apa Jérémie en a livré deux exemples dont la date est justement contemporaine de notre codex. Il s'agit de peintures qu'on pense datées de... Alors, je vous rappelle, notre codex a été écrit aux alentours de 600. Et les peintures datent aussi à peu près de cette époque. Alors, le premier exemple se trouve dans la salle 125. La salle 125... 1725... du monastère d'Apa Jérémie, selon la numérotation des archéologues. C'est malheureusement un exemple un peu partiel. Il s'agit de cinq têtes féminines que vous voyez ici. Cinq têtes féminines, hein, d'après évidemment les boucles d'oreilles, on voit qu'il s'agit de têtes féminines, sur la plate-bande d'un arc entourant une niche décorée d'une représentation de la Vierge à l'Enfant. Alors, les autres vertus, puisque normalement elles sont au nombre de 12, on l'a vu, devaient être représentées ailleurs dans la salle, peut-être autour d'autres niches, sur les autres murs. Seules deux de ces cinq vertus ont leur nom conservé. Alors, je ne sais pas si vous les voyez sur ce dessin. On voit ici, Elpis, c'est-à-dire l'espérance. Et ici, on voit agapé ou tagapé, c'est-à-dire la charité. Alors, l'autre exemple que l'on a retrouvé de ces représentations des vertus de l'Esprit-Saint à Apa Jérémie est beaucoup plus complet et beaucoup plus intéressant. Il a été découvert dans la salle 709 sous la forme de 12 portraits. Peut-être 13 d'ailleurs, il est possible qu'il y ait eu la répétition d'un d'entre eux, répartis sur les murs sud, ouest, nord et peut-être est de la salle 709. Les vertus, comme vous le voyez, ont des visages féminins, comme dans la peinture de la salle 1725 que je viens de vous montrer, mais le fait qu'elles sont dotées d'ailes, que leur tête sont auréolées, vous voyez les ailes qui sont très très visibles, que leurs têtes sont auréolées et qu'elles tiennent dans leurs mains des disques, les apparentent à des entités angéliques. Alors leur nom est mentionné de part et d'autre de leur tête, de leur auréole. Donc on a tout d'abord, on le voit ici, on a tout d'abord avec celle-ci, la foi. Ensuite, on a, on le voit bien, Telpis, l'espérance. Après, on a la charité. Alors, les autres vertus, leur nom est perdu. Puis ensuite, on a Upo nommé. Et on passe à la bénignité. Donc, Upo nommé, hein, c'est l'endurance. On passe ensuite à la bénignité et enfin, on trouve, avec cette dernière représentation et avec le nom qui est tout à fait lisible, on trouve la longanimité et malheureusement, la vertu numéro 10, numéro 11 et numéro 12 est perdue, enfin sont perdues. Les vertus 10, 11, 12 sont perdues. Alors le monastère d'Appa Apollo de Bawit est encore plus riche en représentation des vertus angéliques, puisqu'on y en a retrouvé 5, 5 où les vertus sont représentées, là encore, sous la forme d'anges. Alors, je les présente sous la forme d'un tableau récapitulatif qui permettra de mieux les comparer. Alors, on a d'abord une représentation dans la chapelle 3. Il s'agit, là encore, d'une niche. Et sur l'arc ou la moulure qui fait le tour de la niche, on voit représenter ces vertus. Alors, malheureusement, nous n'avons pas une couverture photographique complète de ces vertus, mais on a juste ce petit schéma qui nous montre où elles étaient représentées et un dessin qui a été fait de l'une d'entre elles. Alors, vous voyez, hein, les vertus sont disposées et là encore, au centre, on a la Sibylle qui est représentée. Et de part et d'autre de la Sibylle sont disposées les 12 vertus de l'Esprit-Saint. La représentation suivante se trouve dans la chapelle 12, donc sur la paroi est et sud. Alors vous voyez ici des représentations de divers saints et dans le bandeau inférieur, on voit des têtes avec des noms, hein, Pistis, la foi, Helpis, l'espérance, Agapé, la charité, etc., etc., qui se déploient sous les représentations des saints. Donc, on a le nom de 7 des 12 vertus conservées. Malheureusement, il nous manque la 8e, la 9e, la 10e, 11e et 12e. On passe maintenant à la chapelle 18. La chapelle 18 a livré sur sa paroi ouest une représentation des 12 vertus. Alors, je vous montre les quelques photos que l'on a dans les anciennes publications, parce que malheureusement, ce sont des fresques qui, pour la plupart d'entre elles, ont disparu. Donc, vous voyez comment étaient représentées ces vertus. Et là, cette fois-ci, on voit bien les ailes, hein, qui sont tout à fait visibles. Alors, on a là encore la foi, l'espérance, probablement la charité, etc. Ici, vous voyez des dessins qui ont été réalisés. Quelquefois, les dessins sont plus visibles que les photos. Et là, on voit bien le nom de Enkratia, hein, qui est représenté, donc l'endurance. Ensuite, on a à nouveau cette photo et je vous montre le dessin qui en a été fait et qui permet de lire le nom. Il s'agit ici de la bénignité. Et nous passons maintenant à la chapelle 12 qui, alors, a livré une représentation des 12 vertus sur la paroi ouest, mais malheureusement, il ne reste que 2 têtes qui sont encore visibles, que vous voyez, qui représentent, d'après les archéologues, la foi et l'espérance. Et alors, j'ai gardé la plus belle pour la fin. La plus belle parce que vous pouvez la voir encore si vous allez au musée copte du Caire. Il s'agit d'une peinture qui a été retrouvée dans la salle 6. Alors voici une photo que j'ai eu l'occasion de faire au musée copte du Caire. Vous voyez qu'il s'agit d'une magnifique représentation de la Vierge et du Christ entouré de divers saints. Et les vertus sont représentées, les vertus de l'Esprit-Saint sont représentées, là encore, sur l'arc qui entoure la niche. Alors, je vous montre maintenant un dessin qui a été fait par un dessinateur dont le nom est assez connu, il s'agit de François Doma. C'est le père de l'égyptologue François Doma, qui n'a malheureusement, l'égyptologue n'a jamais connu son père, puisque son père est mort sur le front en 1914 et que lui est né en 1915. Et c'est un dessinateur qui a travaillé beaucoup pour l'Institut français d'archéologie orientale et qui a livré un certain nombre de dessins aquarellés. Des peintures qui étaient découvertes à ce moment-là. Et vous voyez, là encore, qu'on a affaire à une représentation des 12 vertus avec au centre la Sibylle, hein, Ama Sibylla, et de part et d'autre, les 12 vertus. Alors, si on récapitule les informations donné par les peintures de Bawit et de Sakara, en les comparant à la liste de notre codex, eh bien, on obtient le schéma suivant. Alors, je vous ai mis les vertus telles qu'elles apparaissent dans notre codex scolaire, et là, j'ai récapitulé celles dont le nom est encore conservé, et les chiffres qui sont là correspondent à l'ordre dans lequel elles apparaissent dans chacune des représentations. Alors, on voit que toutes les vertus de notre codex se trouvent attestées, mais l'état des peintures ne permet pas de les retrouver toutes ensemble. C'est la salle 6 qui s'en rapproche le plus, puisque petbo, hein, la pureté, est rendue par le grec taknia, c'est-à-dire agneia, et que tenkratia, la continence, pourrait à la rigueur correspondre à temenet remenret, qui signifie normalement la sagesse, mais qui ici pourrait équivaloir au grec sophrosune, dont le sens de sagesse se double aussi de celui de continence, tempérance. Donc on pourrait avoir, là aussi, on pourrait retrouver cette vertu. Et la septième vertu de cette salle 6, qui est en lacune, pourrait être l'humilité, petbio. Toujours est-il que l'ensemble des représentations aboutit à une liste de 15 noms différents, qui, si l'on prend en compte les synonymes, peut être réduit à 13, ce qui montre que le catalogue des vertus pouvait varier à la marge à l'intérieur du même monastère, mais autour d'un noyau qui est somme toute assez stable. En plus de cela, on notera que les représentations figurées agencent les vertus dans un ordre ou dans un séquençage similaire ou partiellement similaire à celui de notre liste, hein, en prenant en compte le fait que certaines séquences doivent se lire en partant du centre, comme on l'a vu, comme dans la peinture de la salle 6, qui aboutit pour la partie gauche à un ordre inverse. Alors, quand je vous dis même séquençage ou fragment de séquençage similaire, bien, par exemple, vous avez très souvent la foi, l'espérance et la charité qui se suivent. Et le plus souvent, se trouve en position initiale, ce qui met en valeur ces trois vertus théologales. On trouve aussi la virginité et la continence et l'endurance, dans ce sens ou en ordre inverse, qui sont regroupés. De même, la bénignité, la longanimité. Bref, la liste de notre codex fait une fois de plus parfaitement écho aux textes et aux représentations qui couvrent les murs des monastères où ce manuel a dû être utilisé. Son étude nous aura permis de voir comment, à partir d'une base néo-testamentaire, hein, l'Épître aux Galates, eh bien, les chrétiens d'Égypte ont développé, entre autres pour des raisons liturgiques, une nouvelle conception des fruits de l'Esprit-Saint en faisant un ordre angélique dont témoignent plusieurs œuvres de l'époque. On notera que ces 12 vertus ont eu la vie longue, puisqu'elles sont encore invoquées au XVe siècle, puisqu'on les retrouve dans le rituel d'ordination d'un évêque tel qu'il a été mis en place par Gabriel V, qui fut patriarche de l'Église copte entre 1409 et 1428. Donc vous voyez, on a une permanence tout à fait remarquable. Hein. Il n'y a qu'en Égypte qu'on trouve une telle permanence. Hein. Je vous lis le texte. « Que les 12 vertus de l'esprit qui sont écrites dans les Écritures saintes... » Alors, ce n'est pas tout à fait vrai. On a vu que l'Épître aux Galates ne les citait pas toutes les 12. « Dont les noms sont ceux-ci, soit sur notre Père Saint, l'évêque Abba Untel, puisqu'il s'agit d'un rituel d'ordination, donc le nom change évidemment dès qu'il y a un changement d'évêque. La première est la charité, la seconde est l'espérance, la troisième est la foi. Hein, vous retrouvez toujours les mêmes vertus en position initiale, même si ici elles sont inverses par rapport à celles de notre codex. La quatrième est la pureté, la cinquième est la virginité, la sixième la paix, la septième est la sagesse, la huitième est la justice, la neuvième est la chasteté, la dixième la continence, la onzième est la longanimité, la douzième est la seize. Tiens, là, on a une petite variation par rapport à ce que nous avons vu sur les murs de Bawit et de Saqqara. Alors, il reste à se demander... si c'est par hasard que cette liste se retrouve à l'emplacement qui est le sien dans notre codex. Vous aurez remarqué que la liste des vertus de l'Esprit-Saint est dans le codex, est en vis-à-vis de la liste des pierres précieuses. Or, cette dernière est duodécimale. Hein ? Vous vous souvenez, on a 12 pierres précieuses comme on a 12 vertu de l'Esprit-Saint. Mais ce n'est pas tout. Il se trouve que certains textes assimilent les vertus à des pierres précieuses. Reprenons la vie de Pacôme que je citais tout à l'heure. L'énumération des vertus de l'Esprit, que j'ai déjà eu l'occasion de citer, se rencontre dans un contexte qui n'est pas indifférent à mon propos. Pacôme vient d'avoir une vision. Et le texte nous dit, voici ce qu'il vit. Le mur oriental était, pour ainsi dire, tout doré. Et la forme sous laquelle le Seigneur lui apparaissait en ce moment était ainsi. C'était la forme d'une grande figure dans le genre d'un tableau, apparaissant sur le mur doré. Et elle avait sur la tête une couronne d'une incommensurable gloire. Et sur le pourtour de la couronne, des pierres précieuses, de couleurs variées, et qui sont les fruits de l'Esprit-Saint. C'est-à-dire la justice, la paix, l'humilité de cœur, la longanimité, la gentillesse, la bénignité, la continence, la joie dans l'espérance, la charité. Ainsi, comme vous le voyez, les vertus sont des pierres précieuses désignées par le même nom que le titre de notre section qui précède, hein, Aîné, aimé, pierre précieuse, aîné étant une variante saïdique de onné qu'on a dans notre codex. Alors, je ne crois pas qu'il s'agisse là d'une coïncidence. Il est même possible que le compilateur de ce manuel ait utilisé pour constituer la section sur les pierres et celle sur les vertus, un texte aujourd'hui perdu, un texte qui est tenté d'associer les pierres précieuses et les vertus dans un esprit allégorique assez proche de celui d'Épiphane de Salamine. Vous vous souvenez hein, de cet écrit d'Épiphane de Salamine, hein, des Duodecim Gemis, hein, sur les 12 pierres précieuses. Mais n'ayant pas réussi à l'identifier, je préfère ne pas insister sur cette hypothèse. On voit en tout cas que les sections qui composent notre codex ne s'enchaîne pas par hasard, mais elles se répondent selon une intention qui a présidé avec soin à la sélection et à l'élaboration de ce manuel. Alors, continuons à feuilleter notre codex. Qu'avons-nous après la liste des vertus de l'Esprit-Saint ? Eh bien, la liste des cités de la tribu de Juda. Alors, cette section du codex se présente sous la forme d'une liste dont chaque entrée commence par « te polis », hein, la cité, hein, « polis » est un mot grec réutilisé là par le copte, suivi d'un double point, hein, qui est un signe qu'on trouve très souvent dans les textes scolaires, donc présente les localités de la tribu de Juda qui sont données par le livre de Josué 15, 21, 62. Alors la liste suit l'ordre du texte biblique dans lequel les villes sont ordonnées par district. Chez Josué, il y a un total des villes à la fin de chaque district. Hein. Ainsi, en 1562, eh bien, le dernier district, le texte précise, 6 villes avec leur village. Et ce total n'est donné dans notre codex que pour le dernier district à la fin de la liste, où on arrive à lire, malheureusement le début de la ligne est un peu abîmé, où on arrive à lire qui font 6, et donc on a ici un parallèle très net avec le texte biblique. Alors, il y a un certain nombre de différences entre l'orthographe des noms de cités donnés par le manuel scolaire et le texte biblique copte, lui-même divergent par rapport à celui de la Septante grecque, mais je ne m'y attarderai pas. Alors, la liste suivante, là encore, s'appuie sur Josué. Il s'agit cette fois-ci du livre de Josué 12, versets 8 à 24. Donc c'est la liste des peuples et des rois vaincus par Israël. Alors, cette liste est ainsi introduite. Voici les rois du pays que Josué et les Israélites bâtirent en deçà du Jourdain, à l'Occident, depuis Baal-Gad, dans la vallée du Liban, jusqu'au mont Pélée, dont Josué distribua l'héritage aux tribus d'Israël suivant leur division. Donc ça, c'est l'introduction du texte de Josué, enfin du passage dans le livre de Josué, introduction qui se termine sur la liste des pays conquis, immédiatement suivie de la liste des rois. Alors, notre section, dans notre codex, notre section garde les noms des pays conquis. Donc vous avez tout d'abord... Eh bien, le roi de le Hittite, l'Amorite, le Cananéen, le Périsite, l'Hivite, le Jébuséen, le Gigashite. Et à partir de la page 135, eh bien, notre texte égrène, comme dans le texte biblique, la liste des 29 rois qui sont identifiés par la cité où il trône. Le roi de Jéricho, le roi de Gaï, le roi de Jérusalem, et vous remarquerez que Jérusalem est écrit selon le principe des nomina sacra qui est développé dans une section précédente, donc vous voyez qu'il y a toujours des échos. Hein. Le roi d'Hébron, de Yarmouth, de Lachish, d'Alam, de Gezer, d'Ebir, Geisei, Orma, Arad, Libna. L'énumération se termine dans la Bible sur le total des rois. Le texte dit hein, le total des rois faisant 29, qui clôt aussi la liste de notre codex avec une petite variante textuelle, hein, total des rois, 2:29 rois. Alors, dans la deuxième moitié de la page, eh bien, on a quelque chose de très différent. Manifestement, le compilateur de ce codex n'a pas souhaité commencer une nouvelle section au milieu de la page. Il a rejeté la section suivante à la page suivante et a comblé l'espace laissé vacant avec un texte de remplissage, comme vous le voyez, disposé en 4 colonnes. Alors, en fait, il s'agit d'une espèce de pot-pourri des sections précédentes. Alors, la première colonne donne les voyelles, la deuxième colonne propose des combinaisons de voyelles qu'on a déjà rencontrées dans la section du syllabaire, mais selon un ordre un peu différent. La quatrième colonne semble lister les lettres coptes. Malheureusement, elle est pour une grande part en lacune, mais il est vraisemblable qu'il s'agisse des lettres coptes qui sont ici données. Le contenu de ces trois colonnes devait se trouver au tout début du codex. Donc, il s'agit d'une espèce de répétition qui sert de remplissage. Quant à la troisième colonne, eh bien, elle reprend les séries anagrammatiques de la section 6, vous savez, la section des mutismes sur laquelle je m'étais longuement arrêté. On retrouve en effet les lettres qui sont d'une ligne à l'autre répétées dans un ordre différent. Alors, avec la section suivante, eh bien, nous revenons aux listes d'origine biblique. Cette section s'appuie sur la Genèse, Genèse 36, 15, 30, passage qui fait la liste des chefs d'Édom, royaume situé au sud de la mer Morte, fondé par Ésaü, frère de Jacob et petit-fils d'Abraham. Alors, de même que les entrées des deux précédentes listes commençaient par des mots répétés, vous vous souvenez, Teupolis, la cité, ou Pero, le roi, eh bien, chaque entrée de cette section commence par le mot hegemon, qui veut dire en grec chef, mot grec que le copte a ici emprunté, suivi du nom, exactement comme dans le texte biblique. Et on constate cependant que l'ordre ne correspond pas toujours à celui de la Genèse et présente des différences avec des ajouts ou des omissions sur lesquelles je ne m'étendrai pas ici. Mais comme pour la liste des cités de la tribu de Juda, eh bien notre codex mériterait d'être exploité dans une perspective d'histoire textuelle de la Bible copte. Nous arrivons à la section consacrée à la liste des ancêtres de Jésus ou généalogie de Jésus. Cette section reproduit l'évangile de Luc 3, versets 23-38, qui fait la généalogie de Jésus en remontant jusqu'à Adam. Alors, elle commence ainsi, avec Luc 3, 23. Et Jésus était dans sa 30e année, il était le fils de Joseph, comme on le pensait. Et à partir de là, vous voyez une espèce de ligne discontinue et qui introduit la série des ancêtres présentée sous la forme d'une liste où chaque entrée est introduite par le fils d'eux. Donc Joseph, le fils d'Élie, le fils de Mathat, le fils de Lévi, le fils de Melki, le fils de Yanaï, le fils de Joseph, le fils de Matathias, le fils d'Amos. On passe ensuite à la page suivante et la généalogie se termine, page 146, avec la fin de Luc 3, 38 et le tout début de 4, de Luc 4, 1, dont la phrase est interrompue. On a donc le fils d'Adam, le fils de Dieu, et Jésus étant plein de l'Esprit-Saint, on attend la suite, il n'y aura pas de suite. Le texte se termine ainsi. Je vous signale que on retrouve, là encore, des nomina sacra. Vous voyez que Jésus, que l'on avait dans une section précédente sur les nomina sacra, est écrit par la première et dernière lettre. De même, on a ici le nomen sacrum, l'abréviation typique des nomina sacra pour le mot pneuma, l'esprit. Alors, cette section de notre codex connaît, là encore, un parallèle qui est des plus intéressants. On trouve le même texte avec la même mise en forme dans une inscription du monastère de, vous l'aurez tous, de Bawit, d'Apa Apollo à Bawit. Il s'agit d'une inscription sous la forme d'un dipinto à l'encre rouge ou noire, on ne sait pas, puisque malheureusement nous n'avons qu'une photo noir et blanc et l'éditeur ne précise pas la couleur de l'encre utilisée, sur le mur nord de la salle 21 des fouilles que Jean Maspero a dirigé en 1913 et qui, du fait de sa mort au champ d'honneur en 1915, lui aussi, eh bien, n'ont été publiés qu'en 1932 par Étienne Rioton. Alors, après la phrase que vous avez au-dessus, « Et Jésus était dans sa 30e année, étant, et juste après, eh bien, bah, le fils de Joseph, etc. » Et vous avez la liste des ancêtres de Jésus jusqu'à Adam. Liste donc disposée en 5 colonnes, commençant, là encore, exactement comme dans notre codex, par Pechéré-En, le fils de. Alors, ce parallèle est doublement instructif. Non seulement il provient du monastère de Bawit, hein, dont est peut-être issu notre manuscrit, mais en outre, le fait qu'on ait souhaité afficher ce texte sous la forme d'une inscription montre que cette généalogie était considérée comme devant être méditée ou apprise, autrement dit qu'elle avait une vertu édifiante et ou pédagogique. Nous avons vu l'an dernier que les murs des monastères pouvaient être couverts d'inscriptions scolaires. Alors, cette inscription en faisait-elle partie ? La salle 21 a-t-elle été une salle de cours ? A-t-elle accueilli à un certain moment un enseignement ? Il serait téméraire de l'affirmer, d'autant plus qu'aucune autre inscription de cette salle ne va dans ce sens. Mais à tout le moins, cette inscription est l'indice que le texte de Luc faisait partie de ces passages scripturaires dont on cherchait à ce que les moines s'en imprègnent et peut-être l'apprennent par cœur. Alors, je n'entrerai pas dans l'analyse exégétique de cette généalogie qui, avec celle différente de Matthieu 1:17 a fait couler beaucoup d'encre. Je me contenterai de signaler ou de constater qu'en asseyant la légitimité de Jésus et en accréditant ainsi son rôle de Messie, hein, qui implique son appartenance à la lignée du roi David, eh bien ce texte acquiert une dimension théologique, pour ne pas dire téléologique, expliquant qu'on ait voulu le mettre en valeur. Par ailleurs, partant de Jésus pour arriver à Adam, il constitue un compendium de l'histoire biblique qui pouvait faire office de résumé historique doté d'une vertu pédagogique d'autant plus forte qu'il se présente sous la forme épurée d'une liste qui est une forme tout à fait prisée dans la culture, notamment la culture scolaire de l'époque. Le texte de Luc, en étant à la fois une liste et aussi une longue citation, sert de transition vers un autre type de section et donc d'exercice. Nous passons des listes au texte suivi selon une gradation qui respecte la méthode pédagogique progressive que Quintilien, entre autres, conseillait au maître en leur recommandant, après les syllabes, les mots et les phrases, en leur recommandant de présenter aux élèves des textes en vers, donnant, et je cite, un non des maximes oiseuses, mais des orientations morales. Le souvenir de ces aphorismes, nous dit Quintilien, nous accompagne jusque dans la vieillesse, et imprimés dans un esprit qui n'est pas encore formé, ils iront jusqu'à servir de règles de morale. L'enfant peut apprendre ainsi, par jeu, les dits des hommes illustres et des passages choisis, tirés principalement des poètes, car c'est la poésie qui a le plus d'attrait pour les enfants. Eh bien, nous allons voir comment ce programme esquissé par Quintilien a été adapté dans notre codex. Le premier texte de ce codex est l'Épître aux Romains, 8, verset 28-32. C'est un passage qui, quoique n'étant pas en vers, comme le voulait Quintilien, n'en est pas moins empreint d'une très forte portée morale, puisqu'il célèbre les bienfaits de l'amour de Dieu. Alors, il commence sans titre, vous voyez, on a une décoration qui sépare une décoration un petit peu plus soignée, on va dire, que les séparations que l'on avait dans les sections suivantes, puisque là, on passe de listes de mots à des textes suivis. Et donc, nous n'avons pas de titre. On commence directement avec le passage de l'Épître aux Romains 8:28, qui commence ainsi. Et nous savons que ceux qui aiment Dieu, Dieu a l'habitude de les aider en toutes choses pour le bien, eux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés comme conformes à l'image de son Fils pour qu'il soit le premier-né né d'une multitude de frères. Mais ceux qu'il a prédestinés, ce sont aussi ceux qu'il a appelés. Et ceux qu'il a appelés, ce sont ceux aussi qu'il a justifié. Et ceux qu'il a justifiés, ce sont aussi ceux qu'il a glorifiés. Que dirons-nous donc à propos de ces choses? Et si c'est Dieu, c'est Dieu qui est pour nous, quel est celui qui pourra lutter contre nous? Celui qui n'a pas épargné son propre fils, mais l'a donné pour nous, et là, le texte s'interrompt brutalement, là encore, bizarrement, au milieu d'une phrase, puisqu'il manque la fin du verset qui disait « Comment, en effet, pourra-t-il ne pas nous octroyer toutes choses avec lui ?» Alors, vous voyez que ce texte a évidemment une forte portée édifiante, mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il offre aussi une syntaxe qui peut expliquer qu'il ait été choisi comme premier texte suivi. Il est en effet construit sur une série, voyez, de balancements binaires reproduisant la même construction. Hein. Ceux qu'il a discernés à l'avance, il les a sélectionnés à l'avance comme conformes à l'image de Dieu, mais ceux qu'il a sélectionnés à l'avance, ce sont aussi ceux qu'il a appelés, et ceux qu'il a appelés, ce sont aussi ceux qu'il a justifiés, et ceux qu'il a justifiés, ce sont aussi eux qu'il a glorifiés, etc. Cette construction qui se répète avec la reprise des mêmes textes offrait aux élèves des repères qui leur permettaient d'avancer plus facilement dans la lecture du texte. Donc, je crois que la syntaxe de ce texte explique la raison pour laquelle c'est le premier qui a été choisi dans ce codex. C'est aussi d'ailleurs, pour une part, ces considérations, on va dire, syntaxiques, c'est aussi ce qui explique que l'on ait choisi l'extrait suivant. Alors, l'extrait suivant, eh bien, il s'agit de l'Épître aux Philippiens, 5, verset 8 à peut-être 13, il nous manque malheureusement la fin. Le texte qui commence en bas de la page 148 n'avait pas été identifié par Scott Bucking, qui voyait un récit monastique, un monastic narrative. C'est Alain Delattre qui l'a reconnu qui l'a identifié comme l'Épître aux Philippiens 5, 8 et suivant dans le compte-rendu qu'il a fait du livre de Bucking dans la chronique d'Égypte de 2012. Alors, ce texte est d'autant plus approprié dans une anthologie scolaire de contexte monastique qu'il s'agit d'une suite de conseils adressé à ce que Paul appelle « frère », terme qui résonne de façon d'autant plus appropriée dans un monastère, conseil propre à servir de règles de morale, hein, comme le conseiller, là encore, Quintilien. En outre, cet extrait commence par un passage scandé par une accumulation d'unités courtes et sous-tendues par des répétitions qui rendent la lecture du texte plus aisée pour un élève qui commence à lire. Alors, voilà le texte. Hein. « Or donc, mes frères, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est bon, toute bénédiction, toute vertu, et on retrouve ici le thème de la vertu qui est désigné par le même mot, hein, le mot grec « arrêté », tout honneur, Toutes ces choses, pensez-y, ce sont elles que vous avez apprises, que vous avez reçues, que vous avez entendues, que vous avez vues en moi. Faites-les et le Dieu de la paix sera avec vous. Vous voyez cette construction répétitive qui est finalement très pédagogique. Alors, nous sommes page 148 de notre codex. Vous avez la numérotation qui est ici. Les pages 149 à 153 sont perdues, mais il est probable que l'extrait des Philippiens s'arrêtait à la moitié de la page 151, ce qui, eu égard au nombre de lettres par page, laisse penser que l'extrait se terminait avec le verset 13, « Je puis tout en celui qui me fortifie », ce qui constitue une bonne conclusion. Alors, quel était ensuite le texte suivant ? Je suis désolé de vous laisser sur ce terrible suspense. Il faudra attendre la semaine prochaine. Je vous remercie.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.